j'allais dire si nombreux, mais c'est pas le cas du tout. Donc oui, quand j'avais évité les formules toutes faites. En tout cas, c'est sympathique à vous d'être venu. Alors qu'il fait si beau, c'est orageux pour entendre parler d'imaginaire et d'imagination. Alors oui, je vais essayer de ne pas vous assommer parce que le ciel est déjà bas et lourd aujourd'hui, en vous parlant de quelque chose en plus un peu léger, l'imagination, l'image, l'imaginaire, pendant 40 à 45 minutes. Voilà. Si je vais trop vite ou si c'est pas clair, bien entendu, vous pouvez à tout moment m'interrompre, il n'y aura absolument aucun problème. Et par la suite, les 15 ou 20 dernières minutes, on
en discute,
on posera des questions, voilà, vous pouvez réagir. Tiens, je vais commencer par une citation que j'ai trouvée absolument extraordinaire et que je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. Elle est de René Char. René Char, qui est un poète français contemporain, on va dire, même s'il n'y est pas pour vous, du XXe siècle. « Ne trépanne pas le lion qui rêve. » La phrase est très simple, mais alors qu'elle est un peu plus complexe que ça. « Ne trépanne pas le lion qui rêve. » Alors, les imaginaires, c'est un petit peu, si vous voulez, quelque chose de surprenant. Ça laisse entendre, si vous voulez, qu'on va laisser une part belle à l'imaginaire. Et déjà, il faudra peut-être qu'on précise un petit peu ce qu'on entend par imaginaire. Vous savez, imaginaire, imagination, image, imaginal, science-fiction, utopie, tous ces mots ont un sens. Et je crois qu'en philosophie, il faut tout de suite, dès le départ, donner un cadre aux choses pour éviter de partir dans tous les sens. Donc aujourd'hui, il y a d'autres conférences qui nous en parleront, bien sûr, de l'imaginaire. Je vais, moi, surtout m'attaquer à l'imagination. L'imagination, en tant qu'une certaine idée véhiculée sur l'imagination, on pense que chez l'homme, l'imagination est une faculté à produire des images. Et l'image appelant l'image, quelqu'un qui imagine se laisse entraîner par cette production d'images et part vers des horizons plus ou moins lointains, son seul rôle consistant à essayer de se cadrer, en quelque sorte, de garder en mémoire ce qu'il imagine, pour pouvoir soit le peindre s'il est peintre, le dessiner pour un illustrateur, ou l'écrire s'il s'agit d'un écrivain. En réalité, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que je crois que ce n'est pas comme ça que les choses se produisent. Et je vais même tenter modestement, bien entendu, ce renversement qui consiste à vous montrer que lorsqu'il y a des images, la faculté d'imagination s'arrête. Au contraire. C'est-à-dire que la mise en image, la mise en forme, est un arrêt d'un processus imaginatif. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai parlé de fiction. Je crois qu'il serait plus juste de parler de fiction, de faculté d'imagination au sens de fiction. Alors, voilà, ça, ce sont les grandes lignes que je vais aborder, que je vais vous démontrer plus simplement. Alors, imaginez une rédaction d'un livre célèbre qui s'appelle le Mahabharata. Alors, le Mahabharata, c'est un ouvrage que les Indiens ont mis au point et qui est l'équivalent de notre Bible ou du Coran. Alors pourquoi je fais allusion à cela? C'est parce que le Mahabharata représente à peu près 20 fois le volume de la Bible. Vous voyez, c'est quelque chose. Et c'est considéré par la civilisation indienne comme étant l'œuvre d'imagination la plus importante qui soit. C'est une œuvre d'imagination. Celui qui l'a créé s'appelle Vyasa. Vyasa est un analphabète. Et on l'a pris pour son imagination de poète analphabète, c'est-à-dire aucun rapport à l'écriture, donc aucune influence possible par une école quelle qu'elle soit. Il va laisser libre cours à son imagination et Vyasa va justement pouvoir rédiger le Mahabharata. Alors comme il ne sait pas écrire, ça pose un problème. On met à ses côtés, vous le connaissez, le dieu à tête d'éléphant, il s'appelle Ganesha. Et c'est Ganesha qui va écrire pour Vyasa. Mais Ganesha a une exigence. J'écrirai pour toi, lui dit-il, à une condition. C'est que tu n'arrêtes pas le flot de ton imagination. L'image appelle l'image. Ne réfléchis surtout pas. Laisse-toi porter par ces images. Et moi, je m'occuperai d'écrire. Et Vyasa lui dit, mais tu veux écrire avec quoi? C'est surprenant ce genre de détail, vous voyez, très, très concret. Et effectivement, Ganesha cherche autour de lui un stylet, un stylo ou autre. Et Ganesha, finalement, décide d'arracher sa défense droite. Il est droitier. C'est pour ça qu'il est toujours représenté avec une seule défense et pas l'autre. Et c'est avec sa défense droite qu'il va écrire le Mahabharata. Alors c'est parti. C'est parti. Et là, on est en plein dans ce délire que je dénonce avec vous, qui consiste à dire que l'image crée l'image. Et c'est ce qui se produit au départ. J'ai des visions, exactement comme Saint Jean dans l'Apocalypse. J'ai des visions, dit Vyasa, je vais les écrire. Ce sont les dieux qui m'insufflent ces visions, qui me les donnent. Alors, il écrit, enfin, il dicte, pardon, parce que c'est pas écrire, et Ganesha, qui lui a donné l'ordre de ne jamais s'arrêter, écrit. Et puis les tomes se succèdent les uns aux autres. 20 fois le volume de la Bible, vous imaginez. Il ne peut pas s'arrêter, il ne doit pas s'arrêter. Mais il arrive un moment qui est absolument génial, où Vyasa reprend un peu son souffle et se dit... C'est plus très cohérent ce que j'écris là. Je raconte, tu notes, mais là j'ai un trou. J'ai plus d'image. Alors là c'est très intéressant parce qu'il a plus d'image et Ganesha lui dit attention, là, tu es en train de réfléchir. Si tu réfléchis, tu vas mettre des éléments personnels dans cette histoire. Ce ne sont plus les dieux qui t'inspirent. Sois fidèle à ton imagination. Et Vyasa lui répond oui, mais j'ai plus rien. Là par exemple, j'ai deux femmes, deux princesses qui sont des demi-déesses, elles doivent engendrer la race des hommes. Et alors Ganesha lui dit, ben vas-y, continue. Il dit, mais j'ai pas d'homme. J'ai aucune image d'homme qui me vient à l'esprit. Il dit, mais si, il y en a un. Alors il lui donne le nom de ses personnages. Non, lui, il a fait vœu de chasteté. Ah. Et lui, ah non, lui, ça va pas non plus parce que lui, il déteste ces deux femmes en question. Et lui, ah non, lui, pareil, il veut pas. Il veut pas y toucher. Alors là, il va se produire quelque chose d'absolument génial, c'est que Ganesha se fâche et ferme le Mahabharata en disant c'est terminé. Tu es en train de réfléchir, tu cherches tes personnages, tu ne fais plus confiance en ton imagination. Et donc ça ne sera pas un bouquin authentique, ça ne vaut plus rien. Et il s'en va. Et à ce moment-là, il y a Vyasa qui dit « J'entends des voix qui viennent du Mahabharata ». C'est-à-dire, tenez-vous bien, dans l'imagination des hindous, et ici des Indiens, les princesses en question se plaignent à l'auteur directement. Les personnages se plaignent auprès de l'auteur et lui disent « On veut un époux ». Et Vyasa dit « Bah oui, je sais, il leur parle maintenant carrément, je le sais, mais j'en trouve pas ». Et elle dit « Mais tu es un homme, toi, entre dans ton livre ». Alors là, c'est très surprenant. Ça, vous pouvez chercher beaucoup de choses pour trouver ça. Entre dans ton livre et viens nous donner cet enfant. Alors Vyasa, évidemment, refuse de le faire, en disant que ça ne se fait pas, qu'un écrivain n'a pas à entrer dans son livre. D'ailleurs, il ne voit pas comment il pourrait le faire. Et d'autre part, il n'a aucune envie de faire des enfants à ces deux princesses. Elles insistent. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles n'ont pas vu Vyasa, qui est sale, qui est vieux, qui ne correspond pas tout à fait au canon esthétique qu'elles se représentaient. Et lorsque... par action divine, il entre dans son livre, prenant acte de possession de son propre livre. La première qui le voit arriver vers elle, évidemment, prend peur. Et elle ferme les yeux en lui faisant l'amour. Et la seconde, alors évidemment, avant de vous dire ce que va faire la seconde, lui en prend ombrage et dit à cette princesse, si un jour un fils naît, de notre union, il naîtra aveugle. Pour te punir de ne pas m'avoir regardé pendant l'acte amoureux. La deuxième, entendant ça, se dit « Oulala, il faut absolument que je le regarde en m'unissant à lui, mais décidément, elle est très laid. » Alors elle va le regarder pendant l'acte amoureux, elle va même le fixer, ce qui peut être très gênant aussi. Et toujours est-il qu'elle ne peut pas s'empêcher de blêmir. Alors, pour nous autres, être blême, c'est assez fréquent, mais là-bas en Inde, c'est pas normal. D'accord ? Quelqu'un de blême, c'est anormal. Alors ça, il en prend encore ombrage et lui dit tu auras une descendance, mais tes fils seront pâles. Voilà, seront pâles. Et donc, l'histoire va reprendre, mais cette fois-ci, cadrée par le concept et non plus l'imagination, il va falloir, pour Vyasa, qui a jeté les bases du Mahabharata, trouver toute une légende, tout un mythe, toute une mythologie sur un cadre qu'il s'est fixé. Comment l'humanité peut-elle être engendrée par des êtres qui sont à la fois d'origine atteints de cécité, aveugles, et des pâles de peau, des blancs de peau. Il s'est donc donné des contraintes, il n'a pu laisser libre cours à son imagination, et la cohérence du Mahabharata va vraiment, vraiment voir le jour. Et là, il ne s'arrêtera plus. C'est lorsqu'il prend possession du texte, quand il entre dans son texte, quand il fait œuvre de logique, d'entendement, que son imagination enfin cadrée donne le meilleur d'elle-même. Tant qu'il ne faisait pas cela, il allait dans tous les sens. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que les philosophes se sont donc méfiés, énormément méfiés de l'imagination. Pas seulement les philosophes, de grands écrivains comme par exemple Borges, et là je vous ai ramené le livre des êtres imaginaires, qui est absolument génial à lire, d'autant plus que lui-même dit qu'il n'a pas d'ordre ce livre, vous pouvez toujours l'ouvrir à n'importe quel endroit, vous avez un être imaginaire qui est décrit. Bien Borges, dans ce livre, le livre des êtres imaginaires, s'étonne d'une chose fondamentale. Voilà ce qu'il dit. Combien y a-t-il d'êtres imaginaires imaginés par les hommes en Amérique du Sud ? Alors dans les êtres imaginaires, vous avez bien sûr les satyres, les centaures, les griffons, enfin vous les connaissez pratiquement tous. Une centaine, dit-il. Une centaine. Rien que les espèces de chauves-souris, il y en a plus de 3000. Comment se fait-il ? Voilà la question que pose Borges. Que l'homme qui a une imagination a priori débordante, et qui n'a rien d'autre finalement à faire, que d'inventer de nouvelles formes, parvienne très péniblement à peine une centaine d'êtres imaginaires, et encore, quand on regarde, c'est souvent des variantes infimes d'un être imaginaire à un autre, alors que la nature, qui ne connaît pas l'imagination, arrive pour une espèce de mammifère volant à mettre en place plus de 3000 espèces. Il y a une conclusion d'ailleurs surprenante de Borges qui dit que la zoologie de Dieu, c'est-à-dire la création, est nettement supérieure à la zoologie des êtres imaginaires. Il y a ici une énigme. Je vous le cite d'ailleurs parce qu'il y a une écriture extrêmement claire et géniale. Passons maintenant du jardin zoologique de la réalité au jardin mythologique des mythologies, dont la faune n'est pas de lions mais de sphinx et de griffons et de centaures. La population de ce deuxième jardin devrait excéder celle du premier, puisque ce qu'on y montre n'est pas autre chose qu'une combinaison d'éléments d'êtres réels et que les possibilités de l'art combinatoire frisent à l'infini. Nous pourrions produire, il me semble, un nombre infini de monstres, avec des combinaisons de poissons, d'oiseaux, de reptiles, sans autre limite que en fait, la lassitude ou le dégoût. Et pourtant, nous n'y arrivons pas. Il y a une limite à l'imagination, quand on la conçoit prisonnière de l'image. On a tous fait ça à l'école maternelle, et parfois même après, vous savez, ces collages, on découpe. Découpe des éléments et on les recompose. Voilà. Quelque part, il y a une activité de l'esprit. Mais il n'y a pas véritablement création. Si vous prenez par exemple le sphinx, ou la sphinx, on n'a jamais trop su, une tête de femme sur un corps de lionne. C'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, si on prend le centaure, même chose. Si on prend le griffon, tout le monde voit. Un chien, tout le monde a déjà vu des ailes de chauve-souris, on découpe par l'imaginaire et on recompose. L'imagination dite reproductrice, celle que dénoncent les philosophes, en est à ce stade-là. Elle est intéressante, mais elle n'est pas passionnante. Elle ne nous emmène pas vers un autre monde, parce que précisément, elle est alourdie par la présence du déjà existant. Même recombiné de manière originale, c'est du déjà existant. Alors, regardez par exemple la sirène. Alors parfois les peintres jouent un peu avec ce genre de représentation. La sirène, rappelez-vous, un buste de femme, à peu près jusqu'au nombril, le reste une queue de poisson. Magritte s'amuse avec les sirènes, alors lui il montre jusqu'au nombril, mais en partant du bas, vous avez le corps féminin, et le dessus, c'est le poisson. Il a complètement inversé la chose. La sirène de Magritte, évidemment, est un peu originale, mais néanmoins. Magritte, qui donne dans le surréalisme, vous le savez, ne fait que reprendre encore des éléments qui existent, voilà, et qu'il combine de manière assez inattendue. Alors, l'un des des arguments qu'on retient contre l'imagination. Vous avez par exemple Descartes. Descartes n'est pas contre l'imagination et dans les méditations métaphysiques, alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire la lecture des méditations métaphysiques, mais enfin, du moins, si quand même, un petit peu, mais pas trop. Et il vous dit, page 29 de l'édition donc, des Presses universitaires de France, car de vrais peintres, lors même qu'ils s'étudient avec le plus d'artifice à représenter des sirènes et des satyres, par des formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent pas toutefois attribuer des formes et des natures entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres de divers animaux. Ou bien si peut-être leur imagination est assez extravagante pour inventer enfin quelque chose de si nouveau, que jamais nous n'ayons rien vu de semblable, et qu'ainsi leur ouvrage nous représente une chose purement feinte et absolument fausse, certes, à tout le moins, les couleurs dont ils les composent doivent-elles être encore véritables. C'est-à-dire que même quand Descartes reconnaît que l'imagination va quand même au-delà de la simple combinaison d'éléments originaux, mais qui existent déjà, il y a quand même, par le fait qu'on reconnaisse ce qu'on voit devant les yeux, un rapport au réel dont l'individu qui fournit les images n'arrive pas à se départir. Et Descartes ne sera pas trop sévère vis-à-vis de l'imagination. Il juge, par exemple, que quand vous faites des mathématiques, il y a parmi nous des experts, eh bien, il faut pouvoir un peu imaginer. Pourquoi ? Parce qu'avec l'image, nous avons un support qui nous permet, par exemple, de faire la géométrie. Si je vous parle d'un triangle, au moment où vous me regardez, vous avez tous un triangle en tête. C'est facile. Et si toutefois quelqu'un de fatigué n'en a pas un en tête, on peut le dessiner. Mais un triangle, donc un polygone à trois côtés, si je passe maintenant, dit Descartes, au chibiogone, là il va y avoir des problèmes. Tout ce que tout le monde me suit quand je parle du chibiogone, c'est une horreur, le chibiogone, une horreur absolue. C'est un polygone à 1000 côtés. 1000 côtés, donc qui possède, juste pour vous faire rire un peu, 498 500 diagonales. Alors ça, vous avez bien compris que le chibiogone tendait vers le cercle. Comment voulez-vous imaginer 1000 côtés ? Essayez. Voilà. En revanche, on peut parfaitement le conceptualiser. L'imagination ne tient pas la route, dit Descartes. On prend une piste d'envol avec l'imagination si on ne peut pas aller directement en abstraction mathématique, mais cette piste d'envol, une fois empruntée, rapidement, l'imagination vous laisse en rade. Elle ne veut pas suivre. L'esprit va trop vite. L'esprit va trop haut. La conceptualisation est bien supérieure à la simple production des images. Alors, ça sert quand même à quelque chose. Descartes dit que ça a une valeur didactique. Mais ça peut être dangereux. Pascal, vous le savez, vous dira que si vous amusez sur cette table à marcher, à un mètre du sol, vous allez même danser dessus, même avancer à reculons. Mettons maintenant la même table au-dessus du vide, vous ferez moins les malins. Et pourtant, c'est la même table. De quoi avez-vous peur ? Votre esprit dit, il y a largement la place pour vous accueillir. Mais l'imagination vous laisse croire que si jamais vous faites un faux pas, ce sera le dernier. Vous voyez ? Voilà. Alors que jusqu'ici, ça vous amusait. L'imagination, donc, est quelque chose qui a un lien étroit, d'après les auteurs classiques, avec l'irrationnel, avec la passion, avec la folie. Malebranche dit d'elle, par exemple, c'est une folle qui fait la folle. C'est une folle qui fait la folle. Et souvent, on a utilisé l'imagination pour ruser, pour tromper, pour amuser également. Souvenez-vous de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac qui a à peine un quart d'heure pour empêcher un mariage. Ça fait peu. Et qui va réussir à l'empêcher en racontant à un homme, le comte, qui est capable, lui, d'arrêter ce mariage, comment il est arrivé à voyager sur la Lune. Et parmi les procédés que Cyrano de Bergerac invente, il y en a un qui est particulièrement remarquable, mettre une armure autour de soi, attacher au bout de l'armure un aimant, jeter l'aimant en l'air. Comme vous êtes relié à l'aimant, évidemment, vous imaginez la scène, vous avez l'aimant au-dessus de vous, l'armure est aimanté, donc rejoint l'aimant, et au moment où vous commencez à redescendre, vous prenez vite l'aimant et vous le rejetez en l'air. Comme ça, vous allez pouvoir monter jusqu'à la Lune.
Un professeur de physique
ne trouverait pas ça drôle du tout.
Vous voyez,
mais en littérature, on trouve ça extraordinaire, parce qu'on dit voilà un excellent moyen. Alors, il faudrait être fou pour le tenter. Mais l'idée est tellement, tellement géniale. Et il gagne son pari. Il a tenu le temps qu'il fallait pour un mariage. Il a amusé. Il vous a fait rire, comme vous venez de le faire. Mais voilà, est-ce que l'imagination peut faire autre chose que ça? Si on en reste à la production d'images, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez un philosophe qui s'appelle Kant. Kant a bien pu montrer que dans le cas du jugement esthétique, l'imagination pouvait être un secours très précieux, mais uniquement pour comprendre les œuvres d'art. Une œuvre d'art est souvent énigmatique. Or, elle a, de par sa forme, un rapport avec la sensibilité. Comme l'imagination, pour les philosophes, est liée au corps, comme elle ne décolle pas, comme je viens de vous le dire, ou difficilement, elle est d'un secours précieux quand on essaie de comprendre le message éventuel d'une œuvre d'art, si toutefois il y en a un. Elle suggère à l'entendement des possibilités. Et pour la première fois, l'entendement qui, d'ordinaire, la méprise, d'ordinaire, ne l'écoute pas, est bien obligé de reconnaître que dans le domaine de l'esthétique, l'imagination est primordiale. Mais là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, on y reviendra si ça vous intéresse, ce que je vous dis est valable dans l'analytique transcendantale du beau, critique de la faculté de juger, chez Kant. Mais déjà, avec l'analytique du sublime, ça ne l'est plus. Pour vous le dire plus simplement, lorsque l'artiste atteint le sublime, l'imagination, justement, ne suit pas. Il n'y a plus que la raison pure, pour pouvoir comprendre les œuvres dites sublimes. Là encore, même Kant, qui la réhabilite, ne la garde pas jusqu'au bout. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Allons maintenant un peu plus loin. Mais alors, à quoi sert l'imagination? Bien, l'imagination, si vous voulez, est réhabilitée plutôt par des penseurs qui vont quitter justement le domaine de l'image. À partir du moment où on quitte le domaine de l'image, et aujourd'hui, en quelque sorte, je vous montre comment l'homme de lettres se venge en fait du peintre. Comment l'homme de lettres va beaucoup plus loin dans l'écriture que le peintre avec ses images. Et en fait, les imaginables, si vous voulez, sont beaucoup plus à chercher du côté des écrivains que du côté des illustrateurs. Pour quelle raison? Parce que précisément, les illustrateurs sont ici, bloqués, si je puis dire, et j'exagère un peu, hein, je suis d'accord, bloqués par le poids des images. L'image est un aboutissement d'un travail, pas un point de départ. Alors que les littéraires ne travaillent pas du tout dans cette optique-là. Ici, vous avez un combat entre l'image et le mot. Le mot, et c'est René Char dont je parlais tout à l'heure, qui dit très bien, les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Les mots, fonctionnent avec une certaine force, un pouvoir d'imagination ascensionnelle. C'est une expression que j'emprunte à Gaston Bachelard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse la littérature ou œuvrer, lorsqu'on se met à écrire, il y a, si vous voulez, une sorte de spirale à continuer à écrire, pour peu qu'on soit inspiré, qui n'est pas du tout de l'ordre de l'image. Et à ce niveau-là, l'écrivain va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Le poète va beaucoup plus loin que le faiseur d'image. Alors, ça n'est pas dans mon propos quelque chose d'ailleurs de péjoratif quand je dis faiseur d'image. D'accord ? C'est pas du tout péjoratif. C'est simplement pour montrer que la source de l'imagination n'est pas du tout réservée aux images. D'ailleurs, vous avez des domaines où sans imagination, on ne peut rien faire. C'est le cas de la musique. Or, il n'y a pas d'image en musique. C'est le cas de la science. Que vaut un homme de science qui fait de la recherche s'il n'a pas d'imagination? Il gère fort bien la découverte des autres, et c'est utile de le faire. Il fera de l'épistémologie, mais il ne fera pas de recherche. Or, il n'y a pas d'image ici. Dans le domaine de la stratégie, dans le domaine de la politique, etc., on n'est pas forcément des images, et pourtant, Dieu sait si l'imagination y joue un rôle essentiel. L'image, en fait, et imagination, ce n'est qu'une petite partie de l'imagination. L'imagination est beaucoup plus forte quand elle quitte le domaine propre de l'image. Alors, c'est la dernière partie, justement, de mon exposé, c'est de vous le dire. C'est pour ça que je préférerais parler, en ce sens-là, de fiction. Vous voyez ? Pour, justement, quitter le domaine de l'image. La fiction, et là, je m'abrite derrière Borges, bien entendu, est beaucoup plus intéressante. Borges, par exemple, a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Fiction, les fictions, et va passer toute une partie de sa vie à travailler sur cette thématique. Alors, qui est Borges, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un écrivain argentin, un contemporain donc, du XXe siècle, et qui a toute une partie de son œuvre qui est extrêmement énigmatique et fascinante par la même. En fait, si vous voulez, Borges opère des renversements. Le type de renversement courant qu'il opère, c'est toujours par rapport au langage et à l'écriture. On a toujours pensé que les hommes avaient parlé d'abord, puis à un moment donné, s'étaient mis à écrire. Et dans cette optique, on a conçu l'écriture comme un support du langage. Faute que dénonce Borges. Pour lui, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie totale de l'écriture, et puis il y a un langage qui parfois s'inspire de cette écriture. Mais on ne peut pas penser le premier comme le support de l'autre. Et le propre de l'écriture, c'est qu'elle enrôle l'écrivain à son service. Vous voyez ? C'est-à-dire, j'entre dans le domaine de l'écriture en écrivant. La correspondance pour Borges la plus intéressante par rapport à ce que je vous dis, c'est la musique. Il y a parmi vous des musiciens, ils voient très bien ce que je veux dire. On ne maîtrise pas la musique. On essaie d'en être son disciple. Or, la musique est parfaitement immatérielle. À quoi est-elle ? Elle est l'image de rien, la musique. Vous voyez ? Absolument rien. Donc, et pourtant, elle est bien présente. Eh bien, c'est exactement cela. Alors, si vous me suivez, le fondement, j'allais dire, philosophique, idéologique de ce que je vous dis, se trouve dans le premier tome de la Poétique d'Aristote. Lorsque Aristote va tenter le tour de force, il consiste à dire que la poésie est supérieure dans les récits qu'elle invente à l'histoire. C'est-à-dire que le poète est supérieur à l'historien. Alors que, évidemment, vous interrogez n'importe qui là-dessus, il vous dira ah non, 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 l'historien c'est sérieux, la poésie c'est beau. Ça peut être très sérieux aussi, mais ça l'est de toute façon moins que l'histoire. Non, dit Aristote, pas du tout. Le récit historique, non seulement est toujours lacunaire, mais il est toujours entaché d'un rapport à la réalité qui a été réinterprété dans le cadre d'un propos. L'historien donne un point de vue sur l'histoire, un point de vue sur une portion du passé, qui est passé en plus. Si vous prenez le poète essaie d'inventer une fiction et s'intéresse au vraisemblable. Et le vraisemblable est beaucoup plus intéressant pour l'homme que le rapport à la réalité. Parce que le rapport à la réalité est toujours là, toujours indonné, tandis que le vraisemblable multiplie ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les possibles. L'homme se nourrit de fiction, c'est-à-dire de monde possible. Il ne se nourrit pas de rapport à la réalité. Et c'est en ce sens-là que la poésie est supérieure à l'histoire. Et toute l'œuvre de Borges essaie de le montrer. Par exemple, et je termine avec ça. Si ça a sonné, donc je termine avec ça, promis, j'arrête. L'exemple que donne Borges, c'est de dire un roman policier. Il y a deux façons de lire un roman policier. La première façon consiste à dire « Ah, il faut que je trouve généralement le meurtrier, le coupable ou les criminels. » Et finalement, une fois que je les ai trouvés, ben voilà, j'ai terminé le roman, il était pas mal, il était pas trop bien, ben voilà. Et il y a une deuxième qu'il met d'ailleurs lui constamment en place, c'est l'œuvre inachevée. Certes, j'ai achevé le roman policier, j'ai trouvé l'assassin, mais quelque part, il y a un inachevé. Quelque part, ce que je viens de lire résonne encore en moi et m'oblige à me réorienter sur d'autres interprétations possibles. 2, 3, 4, peut-être 5. Et puis j'en discute avec quelqu'un qui a vu quelque chose d'autre encore. En fait, c'est pas le coupable que nous avons cherché dans un roman policier. C'est la multiplication des enquêtes possibles avec une cohérence absolue par rapport à l'intrigue. C'est en ce sens-là que la fiction l'emporte sur la réalité. Et c'est en ce sens-là que la poésie l'emporte sur l'histoire chez Aristote. C'est exactement le même discours. Donc pour conclure, voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'une œuvre fictive se reconnaît en ce qu'elle enrôle l'imagination dans une infinité de possibles. Et c'est ce que recherche l'homme. Alors qu'une œuvre qui se contente simplement d'être une imagination de reproduction cantonne l'homme à une vision de la réalité qu'il connaît déjà, qui est utile, c'est utile, mais ne l'amène pas à découvrir d'autres mondes possibles. Donc l'image fige, l'imagination, au contraire, est toujours en devenir. Voilà. Merci pour votre attention. Ça a été un peu brutal, peut-être rapide, compte tenu du temps qui m'était imparti.
On a encore un petit peu de temps devant nous.
Alors, justement, si vous avez des questions ou des remarques, je vous écoute. Nous avons affaire à un écrivain aussi, hein, donc profitez-en.
Non, pire, un éditeur. Je contrôle l'imagination des auteurs.
Voilà, un contrôleur d'imagination.
Imaginez. Oui, il y a une question là-bas, monsieur. Allez-y, parlez bien fort. Hein.
Oui. Est-ce que, dans l'idée que l'art, justement, cherche plus le vraisemblable que le vrai, est-ce qu'on n'a pas la même idée qu'on trouve également chez Hegel, que l'imitation, quelque part, dégoûte l'homme? Par exemple, au musée Grévin, c'est quelque chose de plus glauque que beau.
Question qui est difficile. Belle question. Belle question. Et vous voulez vraiment que je réponde avec Hegel? Isabelle, tu veux le faire à ma place? Parce qu'on a une prof de philo qui est là, qui est morte de rire. Disons qu'il y a, chez Hegel, alors je vais essayer de répondre quand même, mais de manière. C'est une bonne question et du coup, il faudrait y répondre pour. Hegel situe, si vous voulez, le rapport à l'art dans un processus historique. Et chez lui, il y a, pour aller vite, l'absolu, ce qu'il appelle l'esprit, choisi par rapport aux activités humaines, ce qui est censé le refléter avec le plus d'exactitude. Et dans ce choix, il y a eu plusieurs moments. Il y a eu un moment pour la religion, il y en aura un pour la philosophie. Là, quand vous posez votre question, ça a été le moment, on va dire, de l'œuvre d'art. Mais quand l'esprit informe les œuvres d'art, si je puis dire, il ne les trouve pas encore en voie d'achèvement. Il les trouve de manière relativement brute, sous une forme plus ou moins monstrueuse. C'est ce qu'il va appeler l'art symbolique. Vous me corrigez à droite, là, si je dis des bêtises. Parce que dans 15 jours, ça risque de vous coûter très cher. Alors, donc, l'art symbolique. Puis, à force d'évolution, on arrive vers, justement, le moment d'imitation où le corps humain est vraiment représenté avec l'art classique. Le beau, ici, est incarné au niveau des dieux. Les dieux sont beaux, mais parce qu'ils ont un corps humain. Ce n'est pas un corps humain simplement copié chez Hegel. Il est transcendé par l'idée du beau. Le problème, c'est que, c'est pour ça que votre question me gêne un peu, c'est que si je m'arrête là, voilà. Par contre, si je dois continuer, le processus va évoluer vers ce qu'il appelle l'art romantique, où là, on va délaisser le corps humain et on va de plus en plus vers l'abstraction. Hegel meurt, je ne sais plus si c'est en 1833, en 1850, en tout cas, au milieu du XIXe siècle, pas plus. Il n'a pas pu connaître ce qu'on va appeler les arts dits contemporains. École conceptualiste, etc. C'est-à-dire où on va complètement délaisser le rapport à la réalité, au réel, pour, j'allais presque dire, se noyer dans l'abstraction. Alors, les Hegeliens prétendent qu'il avait annoncé la mort de l'art sous cette forme-là. Parce que quand l'art devient abstrait, il n'a plus de rapport au sensible, et un art qui n'a pas de rapport au sensible n'est plus une œuvre d'art. Mais il y a parmi vous des gens qui défendent l'art contemporain, ils savent très bien qu'on se... On se gargarise d'abstraction et pour autant, l'art contemporain a toujours quelque chose à dire. Voilà, mais Je suis un peu maladroit dans ma réponse parce que c'est une question trop complexe pour y répondre rapidement.
Est-ce qu'il y a une autre question? On a encore du temps, on peut faire des questions compliquées, hein, y a pas de souci. Ah, pardon. Oui.
Que ce qui était intéressant, c'était le vraisemblable dans la mesure où ça multiplie les interprétations possibles de la réalité au lieu de figer, un rapport réel. Et voilà, donc je suis obligée, puisque apparemment il y a des gens qui passent avec des intentions, je pensais à la notion d'interprétation et aussi à la définition possible de l'intelligence comme ce qui permet d'établir des liens.
Oui.
Et là, grâce à l'imagination, l'intelligence trouve le moyen d'établir des liens qui restent cohérents, qui restent écumés. Et donc, l'imagination, l'intelligence interprète elle-même. Et je pensais à Baudelaire, qui a l'imagination.
Baudelaire, qui est souvent cité par Borges, évidemment, et ou Edgar Allan Poe. Qui est son maître à penser également, et notamment les fameuses enquêtes d'Edgar Allan Poe. Tout à fait. Il y a un aspect que je n'ai pas eu le temps d'aborder avec vous. Certains l'ont vu en cours, alors je ne vais pas me répéter, c'est pour ça que je l'ai zappé, mais pour les gens qui plus de philo de manière intensive, c'était l'aspect évidemment de Jung et de Bachelard, où eux parlent aussi d'imagination créatrice, mais alors c'est encore un autre aspect, une autre dimension. Il y a chez Jung, alors Jung c'est un psychanalyste d'origine suisse, qui a été, si vous voulez, un peu l'héritier de Freud, contesté, y compris d'ailleurs par Freud lui-même. Les deux hommes s'admiraient, mais s'observaient aussi. Et Jung est persuadé qu'il y a ce qu'il appelle des archétypes en nous, c'est-à-dire des choses qui nous forcent à imaginer, qui viennent du fondement de notre être par le simple fait que nous appartenons à une culture. Et il a analysé ces principes fondamentaux qui, en nous, étaient source d'imagination. Mais vous avez également une autre possibilité de le voir avec Bachelard. Alors Bachelard est intéressant parce que lui aussi parle d'imagination créatrice, mais il faut pour Bachelard que cette imagination créatrice soit déclenchée, si je puis dire, par des synthétiseurs d'images. Et les synthétiseurs d'images chez Bachelard, ils sont très simples, ils sont de quatre natures, l'eau, la terre, l'air et le feu. C'est-à-dire que pour aller vite, vous contemplez un foyer, un feu cheminée, ça marche très bien qu'un feu cheminée. Et puis immédiatement, vous partez. Vous ne pouvez pas rester en place. Alors ça, Sartre l'explique en disant qu'il y a un champ infini d'interprétation d'une perception. Alors justement, si je vous montre une image, vous voyez, prenez par exemple le logo des Imaginales qui est très beau, cette jeune fille qui semble rêveuse, qui est allongée sur son ventre, et puis voilà. Mais alors, on peut l'interpréter, mais on va en faire le tour. On peut toujours rajouter quelque chose, mais on peut en faire le tour au bout de quelques heures d'interprétation. Si maintenant, vous voyez la même jeune fille dans un pré, à peu près dans cette position, avec, vous allez multiplier les perspectives d'approche, les angles d'attaque, multiplier la perception et en droit, elle est infinie, elle ne s'épuise jamais. Eh bien, Bachelard montrera qu'il y a des éléments de base qui sont des synthétiseurs d'imagination qui, en eux-mêmes, vous forcent à imaginer. Et donc, c'est intéressant chez lui parce qu'on part d'une perception qu'on va délaisser. On part, le foyer, on regarde les flammes pendant quelques temps et après, on est ailleurs. Mais il a fallu qu'il y ait quand même au départ ce rapport à la perception sensible d'un foyer ardent, de nuages qu'on contemple dans l'espace, enfin dans le ciel, etc. Donc ça, c'est une autre dimension de l'imagination créatrice, qui d'ailleurs n'exclut pas le langage. Car à plusieurs reprises, dans les livres qu'il consacre aux quatre éléments, Bachelard essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Et il revient justement au problème du langage. Il y a évidemment les mots que nous acceptons, les mots que nous recevons sont chargés d'une connotation, d'une signification qui n'est pas liée à leur seule fonction. J'ai pu démontrer, rappelez-vous, que que si je prends le mot tout bête, le mot cruche, ça peut être juste l'ustensile qui contient de l'eau ou qui n'en contient plus. D'accord ? La cruche de la cantine, laquelle doit être malheureusement en fer ou en plastique, le désespoir de la matière. D'accord ? Mais si maintenant vous prenez le mot cruche, rien que le mot cruche, avec Bachelard, ou avec Jung, alors là je ne vous dis pas, avec Jung, il y a au moins 3 volumes sur la cruche tout de suite. Si vous prenez juste ce mot, on va le prendre à Heidegger, donc avec des poètes, avec des philosophes qui ont travaillé là-dessus, ça devient quoi ? Ça devient un objet déjà en terre cuite, la terre, cuit par le feu, qui contient de l'air et qui contient de l'eau. Au sein de la cruche dort le ruisseau. Vous voyez ? Et on retrouve à travers l'homme qui, par son travail, unifie ces 4 éléments, eh bien, l'aura de ce mot cruche. C'est comme ça que les poètes perçoivent les choses. Ils les délaissent sur leur possible utilisation concrète. Ça ne les intéresse pas. La cruche, pour un poète, n'est pas là que pour remplir un verre ou le vider. Elle existe en soi. Et chaque mot pris en soi a ce contenu oratique qu'essaie de capter justement l'imagination. Si on est dépourvu d'imagination, ça n'est pas d'ailleurs une critique de ma part, on verra la cruche pour remplir son verre d'ailleurs. Et on peut la voir comme ça. Mais il y a une autre dimension. Oui ?
Vous êtes en train de dire que sans imagination, il n'y a pas de connaissance.
Oui. Oui, oui je pense. Oui, c'est juste.
Une belle manière d'avoir essayé.
Pas de découverte.
Sur la science,
et la science n'a pas pour vocation de détruire l'imagination. Non. Le formalisme scientifique, il y a, je ne le ferai pas, parce que d'une part, je ne suis pas compétent pour le faire, puis d'autre part, ça vous ferait fuir, mais il y a une imagination mathématique qui est absolument géniale. C'est une imagination purement formelle, extrêmement, extrêmement complexe. Toi qui aimes, par exemple, la musique de Jean-Sébastien Bach, on est dans ce registre-là. Oui, je vous en prie.
Je pense simplement, sans doute que vous allez revenir sur ce que je dis et exploser, je suis très content. Simplement, vous avez parlé de la supériorité des mots sur les images.
Oui.
Et du fait que, depuis un mot, ce qui était intéressant dans le cadre de l'imagination, c'était l'imagination ascendante, vous avez dit.
Oui.
Si je reformule, c'est censé signifier qu'un mot est intéressant dans le cadre de l'imagination parce qu'il fait appel à des choses qu'on définit comme étant en dehors de lui. On part d'un mot. On sort du mot en imaginant ce à quoi ça fait écho, et en cela, ça a une dynamique ascendante.
Oui.
Et donc, vous opposez à l'image en disant que l'image, elle, fige.
Oui.
Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt là Enfin, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt envisager ça en termes de mesure plutôt qu'en termes de.
Oui.
Dans le sens où vous dites que le mot ouvre et que l'image ferme. Mais quelque part, le mot cadre aussi. C'est-à-dire qu'on part, par exemple, pour reprendre la cruche. Le poète va peut-être mettre des choses autour, mais il va partir d'un support. Et pourquoi est-ce que l'image ne pourrait pas assumer le même rôle ? Certes, on va figer une certaine forme, par exemple, si on dessine une forêt, on ne va jamais dessiner la forêt en entière, on va dessiner un fragment de forêt. Et on va effectivement donc figer un fragment de forêt sous un certain angle. Est-ce que ça empêche les gens d'aller en dehors de ce fragment de forêt, d'aller voir derrière l'arbre qu'on a dessiné de face et d'aller voir les arbres qu'on n'a pas dessiné non plus ? Donc, quelque part, est-ce que l'image, si elle est appréhendée d'une certaine manière par celui qui regarde, enfin, est-ce que l'image. On ne peut pas assumer exactement le même rôle que l'écriture au final.
Alors je peux vous répondre. D'abord, ça me fait plaisir parce que vous avez parfaitement compris ce que j'ai voulu dire. C'est tout à fait ça. Non, mais je suis content parce que c'est pas évident. J'ai dû aller vite. Et donc, il y a des tas de choses que je ne vous ai pas racontées. C'est tout à fait mon propos. C'est ça, mon propos. C'est de montrer que le mot appelle d'autres mots, appelle ce qui n'est pas lui, et donc stimule beaucoup plus l'imagination que la simple image. Alors, vous me recadrez en me disant, mais quand même, quand on regarde l'image, quelque part, et nous, on voit bien l'école de l'image, on passe notre temps à faire ça, quelque part, l'image a aussi son langage. Mais vous avez raison. Mais à ce moment-là, parce qu'elle est vue comme image narrative. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme un mot.
Voyez-vous comme des images ?
Oui.
Ça peut pas retourner.
Oui, on peut le faire.
Dans ces cas-là, est-ce que ça a vraiment du sens de passer l'image en deçà du mot ?
Oui, parce que, enfin, là c'était mon propos, parce que je crois que l'abstraction du mot est de nature à aller beaucoup plus loin, plus vite. Je vois par exemple, et c'est là que j'aimerais bien avoir un soutien de la part de l'écrivain qui dort là, à ma droite.
Non.
C'est que je pensais à Flaubert ou à Borges. J'ai pris des gens comme ça parce qu'ils ont une écriture qui est extraordinairement prolifique. Et alors que le peintre, si vous voulez, n'est pas tout à fait dans cette perspective. Le peintre est dans une représentation, qui est d'ailleurs géniale. Hein, qui est géniale. Mais quand le peintre ouvre des portes, alors pour moi, je dis bien pour moi, la peinture devient langage.
Mais donc, ça ne dépend pas de la nature même de la peinture. Parce que, enfin, c'est pas ma petite connaissance de cause,
oui.
Je suis pseudo illustrateur. Il y a aussi, je pense, une façon de
peindre
qui ouvre et qui ouvre réellement comme des mots. Si on resitue, on peut dire que, les mots étaient de nature beaucoup plus riche pour alimenter l'imagination que.
Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui.
Je pense que ça dépend beaucoup plus de l'image,
oui.
Concrètement, et de celui qui la regarde, que de la nature même des choses. Peut-être qu'en effet, quand on regarde une écriture, vous parlez de Flaubert, on a une plus grande facilité, parce que ça fixe moins, et un mot, ça reste un assemblage de lettres, c'est forcément, ça fait appel à un concept. Enfin, on peut presque retomber sur l'idée des idées, justement, mais l'image.
Oui, mais regardez, bon, c'est pas que je veux absolument avoir raison, parce que votre point de vue se défend. Il se défend tout à fait. Et heureusement que mon directeur n'est pas là, parce qu'il me dirait, il manque quand même pas d'air de soutenir ce genre de thèse ici. Je parle de l'école de l'image, qui repose entièrement sur ce que vous êtes en train de dire, et qui essaie même de nous faire croire que l'image a beaucoup plus de choses à dire que le texte. Et je suis tout seul dans cette école, évidemment, à essayer de dire le contraire. Parce que le texte, si vous voulez, un bon texte, j'ai pris du Flaubert, j'ai pas pris. Un bon texte suscite de multiples interprétations, y compris les interprétations auxquelles ne pensait pas l'auteur.
Une aussi.
Oui, vous avez raison. Il faut être honnête, vous avez raison. Normalement, une bonne image se reconnaît justement à ce qu'elle autorise peut-être d'autres regards. J'aurais, moi, tendance à vous dire qu'une image en donne moins. Mais c'est discutable, je vous l'accorde. C'est discutable. Parce que le texte est quand même plus complexe, je le trouve plus riche. Vous avez donné par exemple l'image d'un. Oui, vous avez dit une forêt par exemple, mais. Enfin, je sais pas.
Ce qui fait la richesse d'un texte, quelque part, c'est peut-être aussi la multiplicité des façons qu'on peut avoir de décrire une forêt ou trois éléments de forêt.
Oui.
Et donc, on peut ouvrir des portes, mais pas seulement ouvrir des portes, on peut les ouvrir de multiples manières.
Oui.
Je n'arrive pas en fait. Situer un endroit où l'image, une bonne image, parce qu'effectivement, si on parle de quelque chose de médiocre, encore faudrait-il.
Oui, il y a des textes médiocres aussi, donc. Oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrive pas à trouver l'endroit où le texte soit intrinsèquement supérieur, et où il est intrinsèquement une grande possibilité.
Bien. Bon, je vais répondre comme un sophiste. Hein, pour, je veux dire. Alors attendez, il faut que je retrouve pour bien vous répondre. Où j'ai trouvé ça, c'était. Ah, c'est Tolkien. C'est Tolkien, et de manière complètement par hasard, je ne sais pas si Fabien s'en souvient, Tolkien qui dit à un moment donné, je ne veux plus que vous illustrez mes textes. Bon, c'est pour le Seigneur des Anneaux. Hein, je ne veux plus que vous illustrez mes textes pour une raison simple, c'est que, voilà, je décris une rivière, je décris des trolls, je ne sais plus ce qu'il écrivait à ce moment-là, et la manière dont le dessinateur l'a fait est très bien. Mais, du coup, tous mes trolls sont vus comme ce dessinateur le suggère. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, chacun a sa conception du monstre. Que chacun, et mon texte, est conçu pour ne pas figer les images. Donc, je ne veux plus d'illustration avec ce texte.
Là, à mon avis, je suis d'accord avec vous dans ce que dit Porto Kien, et effectivement, il y a des choses qui. Ouais. Simplement, je pense qu'on est dans un cas de figure très particulier où, de base, l'image, elle est conçue comme étant allégeante. C'est-à-dire qu'on prend un écrit, l'image, elle est déjà. Dans le postulat de base, elle est déjà en dessous de lui. Mais c'est pas intrinsèquement qu'elle est moins riche ou qu'elle fige les gens. C'est si on aurait pu prendre tout à fait l'inverse. Prendre une image et dire, mais je ne veux pas que vous écriviez sur cette image. Parce que le texte aurait dit d'autres choses, mais il n'aurait jamais pu faire voir l'image telle qu'elle était. Et on se serait imaginé différemment.
C'est juste.
Je pense qu'encore une fois, on retourne comme.
On peut le retourner. En vous écoutant, je pensais à un argument, mais qui va en votre faveur et qui va contre moi. C'est l'argument des images médiévales. Les médiévaux qui ont fait des images ont souvent contesté les textes qu'ils étaient censés illustrer. Et précisément parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le texte. Et montrer que dans la richesse de l'illustration, on pouvait dire non seulement au contraire de ce que vous voulez, enfin, on s'affranchissait en quelque sorte du texte qu'on était censé illustrer, mais qu'il y avait une autonomie de l'image, et que l'image finalement secrétait aussi des interprétations. Et oui, oui, je vous l'accorde. Oui, Fabien, Isabelle, oui.
Seulement, on peut peut-être plus voir ça comme deux alphabets totalement différents, la façon de l'écriture et l'image. Le problème, c'est que dans l'image et dans l'écriture, c'est chacun des alphabets qui ont leur propre, qui ont leur propre lexique. Il y aura des choses qu'on ne peut pas faire dans les deux. Et moi, je dis ça, par exemple, au niveau des sentiments. Au niveau de l'image, il est très difficile de représenter quelque chose de l'ordre du sentiment. Parce que bon, on va dire, bon bah, le rouge, c'est la colère, le vert, c'est la peur, le bleu, c'est les... Voilà.
Les fameux codes.
Les fameux codes qu'on connaît tous. Le problème, c'est que, voilà, rouge, pour rouge en langage, on va pouvoir dire aussi vermillon, carmin, cramoisi. Le problème sera toujours la colère, par contre. Et c'est ça peut-être qui fait que la force du texte par rapport à l'image, c'est que le texte va pouvoir vraiment beaucoup plus développer les sentiments, parce que là, il fait appel à quelque chose que le lecteur connaît, alors que la personne qui est représentée sur l'image, elle va subir une émotion que... On va deviner, mais on ne reconnaîtra pas vraiment parce que bon, on la devine parce qu'il a été fait rouge et il est en colère. Enfin, je caricature en fait, mais alors c'est pour ça que je pense que c'est deux alphabets qui se complètent finalement, beaucoup plus qu'ils se confrontent. Et finalement les choses les plus fortes, c'est le mélange des deux, en fait, parce que le texte c'est une calligraphie, c'est aussi une image, et l'image c'est aussi un langage. Et les deux peuvent amener des choses totalement différentes, ce qu'on fait avec une image, parce que c'est comme texte et l'image. Et je pense aussi par exemple à Magritte, qui dessine une pipe et qui écrit en dessous « ceci n'est pas une pipe ». Alors là, on a la confrontation totale entre les deux, qui amène à un sens totalement différent, quoi. Finalement, le texte et l'image ne veulent rien dire, parce que l'image, elle a la légende qui dit que c'est pas une pipe, et pourtant on voit bien une pipe, alors que le texte dit l'air. Donc finalement, ça brouille totalement, ce qui fait que l'un ne peut pas le faire sans l'autre, en fait.
Oui. Faisons la paix, quoi.
Isabelle, puis on...
Oui. Soit pas bien figée, qu'elle soit animée par un modos, comme tu l'as montré avec tu as mis au moment de l'exemple, alors j'ai noté le Bernarara, il faut que l'image soit animée par un logos au sens de logique, au sens de verbe, donc de mots, voilà. Il n'y a pas de réelle opposition entre temps et
temps. Pas tout à fait. Dans une perspective religieuse, beaucoup de gens disent que le monde est créé par le verbe. Donc le logos, on va dire, l'écriture, mais que quand les chrétiens l'achèvent, ils l'achèvent par l'image, les images de l'Apocalypse. Voilà. Et donc, on achève les choses par l'image, mais lorsqu'elles sont en processus, lorsqu'elles sont en cours, quand elles sont en phase de construction, on les crée par le verbe. C'est une approche juive. Les juifs travaillent beaucoup plus sur les mots, sur les lettres, sur les alphabets, que sur l'image. Bon, et puis si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous parler des archétypes chez Platon, évidemment. Platon a une très grande critique de l'image, et puis il y a tout un travail sur l'idée. Mais bon, je crois qu'on est arrivé.
Oh, bon, on va terminer. Moi, j'ai la réponse de l'éditeur. Je sais pourquoi le texte est bien supérieur à l'image. Il est beaucoup moins cher à produire. Voilà. Merci à vous, en tout cas, et puis bonne soirée à tous.